RFI, 19h en temps universel, 21h à Rome et ici à Paris. L'heure d'un nouveau journal avec vous, Pierre Boudiaz, bonsoir.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à toutes et à tous. Léon XIV s'assoit sur le trône de pierre, le nom choisi par le cardinal américain Robert Prévost, élu aujourd'hui souverain pontife. Nous serons au Vatican dans un instant. Une élection qui continue d'être saluée à travers le monde. Volodymyr Zelensky appelle le nouveau pape à soutenir moralement son pays. France et Allemagne lui enjoignent à être porteur d'espoir. Réaction également bien sûr aux États-Unis, pays d'origine du nouveau pape. Les États-Unis qui appellent l'Inde et Pakistan à la désescalade immédiate. Nouvelle frappe réciproque entre les deux puissances nucléaires aujourd'hui. Une escalade qui bénéficie du soutien de la population indienne grâce à la communication travaillée du gouvernement indien, vous l'entendrez. Et puis l'Europe commémorait les 80 ans de la victoire sur le nazisme. Aujourd'hui, une date à la symbolique particulière, bien sûr en Allemagne, où une cérémonie était organisée. Reportage à retrouver en fin de journal sur les lieux mêmes où le Troisième Reich signa sa reddition sans condition. Et la nuit est donc en train de tomber sur un Vatican qui accueille désormais son nouveau pape. Avant le conclave, on le connaissait sous le nom du cardinal Robert Francis Prévost. Depuis son élection par ses pairs, l'Américain de 69 ans est devenu le 267e chef de l'Église catholique en tant que Léon XIV. On va tout de suite retrouver Cyprien Viette au Vatican. Vous avez suivi pour nous cette journée historique. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Vous entendez peut-être autour de moi que c'est encore la grande fébrilité dans les rues de Rome. 100 000 personnes se sont rassemblées spontanément en fin d'après-midi dès que la fumée blanche est apparue sur le toit de la chapelle Sixtine. Et on a vu apparaître donc ce pape américain, ce qui était une surprise. On ne s'attendait pas à un pape des États-Unis, mais il s'est inscrit résolument dans la filiation du pape François en appelant notamment à une paix désarmée et désarmante à la suite du Christ. Le pape a fait référence à son prédécesseur en rappelant que le pape avait béni Rome le jour de Pâques, en disant « Dieu nous aime, Dieu vous aime tous et le mal ne l'emportera pas ». Il a donc voulu envoyer un message d'espérance et à travers ce pape, c'est aussi un homme du Sud, un homme qui connaît la pauvreté, un homme qui a été évêque d'un petit diocèse du Pérou. Il a d'ailleurs pris la parole en espagnol, ce qui n'est pas du tout protocolaire. On a vu ses cérémonies autour de lui un petit peu surpris quand il s'est exprimé en espagnol. Il a appelé à construire une église missionnaire, une église qui construit des ponts, qui se situe dans un dialogue. Et ce sera vraiment très intéressant de voir comment le dialogue s'établit avec l'administration Trump, fier de ses premiers pas des États-Unis, mais qui ne se situe clairement pas sur sa ligne.
Cyprien Viette en direct du Vatican, merci à vous. Et c'est donc un homme de synthèse et d'écoute classé parmi les modérés de l'Église qu'ont choisi les 133 cardinaux électeurs. Il faisait d'ailleurs partie des favoris avant ce conclave. Natif de Chicago, Robert Francis Prévost était un proche du pape François qu'il avait nommé cardinal en 2023 et dont il avait notamment soutenu la décision d'autoriser aux catholiques divorcés de recevoir la communion. Âgé de 69 ans, fils d'un père français et d'une mère italienne, il aura passé de nombreuses années au Pérou en tant que missionnaire puis administrateur. Fin connaisseur des rouages du Vatican. Il est également connu pour son respect de la parole des autres. Il avait d'ailleurs été surnommé le moins américain des Américains par la presse italienne. Un surnom qui ne va peut-être pas plaire à Donald Trump, car parmi les dizaines de réactions internationales qui ont afflué ce soir, il y a bien sûr eu celle du président américain. On va tout de suite retrouver notre correspondant Guillaume Nodin. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir.
L'élection du nouveau pape fait bien sûr beaucoup réagir outre-Atlantique.
Oui, évidemment. Et le premier à réagir, ça a été le président américain Donald Trump qui a félicité le nouveau pape Léon XIV, plus connu auparavant sous le nom de Robert Francis Prévost aux États-Unis, natif de Chicago, de mère italienne et de père français, et qui, dans toute son histoire, dans tous ses discours, s'oppose vraiment à toute la doctrine et toute la rhétorique de l'actuelle administration Trump, notamment contre les migrants. Si vous allez sur son ancien compte sur les réseaux sociaux, eh bien on voit qu'il critique très clairement Jenny Vance, le président, le vice-président américain, sur la question des migrants. C'est un petit détail amusant d'ailleurs. La nonciature apostolique, donc l'ambassade en fait du Vatican ici à Washington, est située juste en face de la résidence du vice-président américain. Et Donald Trump donc se réjouit lui officiellement pour l'instant d'avoir un pape né américain, puisque vous savez qu'il est également péruvien par naturalisation. Il se réjouit d'éventuellement le rencontrer, mais toute la magasphère, comme on dirait ici, le Make America Great Again, l'extrême droite américaine, et a bien compris que les vues du pape, du nouveau pape, ne sont pas exactement alignées avec les siennes. L'une des plus grandes influenceuses d'extrême droite américaine, vous la connaissez peut-être, elle s'appelle Laura Loomer, elle est proche de Donald Trump et elle s'enorgueillit d'avoir son oreille. Eh bien, elle parle de pape woke et marxiste.
Guillaume Nodin en direct des États-Unis. Merci à vous. Et on précise que le nouveau pape est réputé proche de l'archevêque de Chicago, Blaise Cupich, lui-même parmi l'un des grands opposants au sein de l'épiscopat américain au président Donald Trump et à sa politique migratoire. RFI, il est 00:35 à New Delhi. La tension est toujours vive entre un des Pakistans qui s'accusent mutuellement de frappes de drones sur leurs territoires respectifs ce jeudi. Des explosions ont notamment eu lieu sur la ville indienne de Jammu au Cachemire indien. Frappe après une nouvelle nuit de tirs d'artillerie et d'armes légères le long de la frontière qui sépare cette région contestée. Des échanges qui interviennent 24 heures après la plus violente confrontation entre les deux pays depuis deux décennies, après la frappe dirigée par l'Inde contre le Pakistan en représailles à l'attentat du 22 avril dernier. Elle avait fait 26 morts. Isabelle Saint-Mézard est professeure et chercheure associée à l'IFRI. Elle revient sur la communication du gouvernement indien qui a su s'assurer le soutien total de sa population.
L'Inde sent que, bon, de toute façon, là, la communauté internationale, ça va dans tous les sens. L'administration Trump est dysfonctionnelle, les conflits très lourds se sont multipliés. Les Indiens, je pense, se disent qu'ils ont des réunions avec les ambassadeurs, ambassadrices, pour bien expliquer leur position, informer leurs grands partenaires, France compris. Hein. Mais tout le jeu de médiation de la communauté internationale, de pression sur l'un et l'autre pour revenir au calme, ça j'ai l'impression qu'ils en prennent moins acte. Et ils ont décidé d'agir comme ils estiment qu'ils devraient désormais agir.
Et les États-Unis, par la voix du secrétaire d'État Marco Rubio, ont appelé cet après-midi les deux États à la désescalade immédiate. Message transmis lors d'un appel avec le premier ministre pakistanais et le ministre des Affaires étrangères indien, Washington, qui appelle une nouvelle fois le Pakistan à cesser tout soutien au terrorisme, reprenant ainsi à son compte les accusations indiennes. Les États-Unis qui ont signé un accord qualifié d'historique avec le Royaume-Uni aujourd'hui, les mots du premier ministre britannique Keir Starmer, alors que le texte porte sur les droits de douane imposés par Washington, fixés à 27%. Les surtaxes sur les voitures britanniques retombent à 10%, celles sur l'acier et l'aluminium à zéro. Le ministère américain du Commerce annonce dans ce contexte que le constructeur Boeing va recevoir une commande d'avions pour 10 milliards de dollars en provenance du Royaume-Uni. Autre accord cette fois ratifié aujourd'hui, celui sur les minerais ukrainiens. Le texte a été validé par le Parlement de Kiev, une décision qui ouvre la voie à un nouveau chapitre des relations entre l'Ukraine et Washington, selon Volodymyr Zelensky. L'Ukraine, qui commémorait comme de nombreux pays dans le monde les 80 ans de la capitulation de l'Allemagne nazie aujourd'hui, le 8 mai 45, le régime nazi signait sa reddition, mettant fin à la Seconde Guerre mondiale. Elle fit des millions de morts et provoqua des destructions sans précédent en Europe. Pascal Thibault s'est rendu pour nous là où cette capitulation a été signée il y a 80 ans et il évoque des commémorations auxquelles les officiels russes n'ont pas été conviés.
Transformer la faute en responsabilité.
Stéphanie Follmann, qui coordonne le rassemblement Youth for Peace, cite un moment fort, la rencontre entre une descendante d'un survivant du massacre de Radour-sur-Glane en France en 1944 et la petite fille d'un soldat allemand qui a participé à ce massacre. De tels dialogues apaisés entre Français et Allemands sont aujourd'hui possibles et peuvent servir d'exemple à d'autres, comme le travail de mémoire intense qui a eu lieu durant les dernières décennies. Milana est originaire de l'ex-Yougoslavie. Elle n'a pas connu la guerre meurtrière qui a déchiré la région il y a une trentaine d'années. Pour elle, le travail de réconciliation que d'autres ont accompli est plus nécessaire que jamais. Elle s'efforce d'y contribuer.
Tous les responsables politiques veulent nous diviser, mais nous voulons travailler ensemble.
Mais ces exemples de réconciliation paraissent encore utopiques dans des pays aujourd'hui en guerre. L'Ukrainienne Anna, qui côtoie des soldats blessés tous les jours, ne peut pas s'imaginer d'en arriver là avec des Russes.
Pour moi, ce n'est probablement pas possible. Je ne crois pas que la paix soit une option pour ma génération. C'est impossible pour moi, à l'avenir, de rencontrer des Russes.
Les 80 jeunes vont rencontrer ce jeudi le nouveau chancelier Friedrich Merz, puis la nouvelle ministre de la Jeunesse et leur présenter les résultats de leurs travaux. Pascal Thibault, Berlin RFI.
Et en France, le président Emmanuel Macron a également participé à une cérémonie à Paris en mémoire des 80 ans de la fin du régime nazi. Face au retour du spectre de la guerre sur le continent européen, nous n'aurons jamais fini de défendre la paix, a déclaré le président français. Pour rappel, en Russie, c'est demain qu'auront lieu les commémorations de la fin de la guerre. On va tout de suite continuer à en parler. Restez avec nous dans un instant. Décryptage sur RFI.